I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cette semaine, Tuto Conquérir le Monde s'associe à la première édition du concours Ton podcast pour l'égalité. Lancé par le centre Hubertine Auclair en collaboration avec ONU Femmes France, ce concours est à destination des 14-18 ans. L'objectif, leur faire prendre conscience des enjeux liés à l'égalité entre les femmes et les hommes à travers un concours de création ludique. La participation peut être individuelle ou collective, elle doit être validée avant le 1er juin, le podcast doit durer entre 3 et 8 minutes et il doit porter sur l'une de ces trois thématiques. Les droits des femmes dans le temps, la lutte contre le sexisme, les femmes, les hommes et le sport. Si vous avez des enfants de 14 à 18 ans ou que vous en avez dans votre entourage, n'hésitez pas à faire un tour sur les liens que je vous mets dans les notes du podcast pour retrouver toutes les informations relatives au concours Ton podcast pour l'égalité. Merci et sans plus attendre, place à Tuto Conquérir le Monde. Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. I am not a
believer in climate change. C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste, un podcast dans lequel on part à la rencontre de personnes qui changent le monde. C'est une ambition que beaucoup d'entre nous partagent et mettent en œuvre au quotidien, un geste à la fois. Mais parfois, devant l'ampleur de la tâche, il est difficile de ne pas se laisser déborder par le découragement. Dans ces moments-là, quand on se sent démunie, impuissante, trop insignifiante, je crois qu'il est utile de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'un réseau complètement informel de personnes engagées, tous et toutes en mouvement vers la même direction, un monde meilleur. Fédérer les bonnes volontés, les initiatives individuelles et les projets menés collectivement par l'intermédiaire d'associations, c'est l'une des missions du centre Hubertine Auclair. Sur le front de l'engagement citoyen, il n'y a pas que des individus qui se démènent avec les moyens du bord, il y a aussi des acteurs associatifs, institutionnels, et il nous paraît important de vous les présenter aussi. Cette semaine au micro des activistes, nous avons donc le plaisir d'accueillir Clémence Pageot, directrice du Centre francilien pour l'égalité femmes-hommes, le Centre Hubertine Auclair. Mais avant de présenter le centre, ses missions, ses actions, son impact sur la lutte pour l'égalité, je voudrais qu'on commence par faire connaissance avec sa directrice. Bonjour Clémence Pageot.
Bonjour Esther.
Et bonjour Clémence Bodoc qui est avec moi dans cette interview.
Bonjour. Excellent prénom Clémence, excellent.
Bonjour Clémence.
Alors avant qu'on parle du centre Hubertine Auclair, je voudrais qu'on commence par parler de toi. Est-ce que tu te souviens de ta première indignation ?
Alors, je pense qu'il y en a eu beaucoup, mais je ne sais pas si c'était la toute première, mais je me souviens que, enfant, très jeune, j'imaginais qu'à l'âge adulte, on changeait de sexe. En fait, je pensais que les rôles s'inversaient, certainement parce que j'avais compris assez tôt que finalement, le fait d'être une fille, c'était un peu limitant. Et quand j'avais posé la question directement à mes parents, et d'ailleurs, je crois que ça les avait fait rire, j'avais été vraiment choquée, je m'étais dit mais c'est pas juste en fait. Donc quand on est un garçon ou une fille, c'est pour toute la vie quoi, on peut pas échapper à ça.
Ah ouais, donc tu croyais que comme c'était pas juste d'être une fille entre guillemets, on alternait dans la vie pour que chacun ait sa part,
ouais, c'est
quoi.
C'est ça, mais j'étais vraiment très très jeune. Hein.
Et comment tu l'as mal vécu du coup quand t'as compris que c'était pas le cas ou...
Mais c'est vrai qu'enfant, je jouais beaucoup à des jeux qui étaient considérés plutôt comme des jeux de garçons. Et tout ce qui était considéré comme l'univers des filles, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Donc c'est vrai que j'avais trouvé ça même problématique en fait, assez problématique, parce que je me disais bon bah alors du coup faut que je me projette dans la vie d'une femme quoi. Enfin c'est le souvenir que j'ai. Je pense que j'étais vraiment très jeune, je sais pas si j'avais 4 ans ou 5 ans, enfin mais c'est vrai que ça tout à coup ça devenait compliqué, enfin ça me semblait compliqué l'avenir en étant limitée comme ça par mon sexe. Puis j'ai d'autres souvenirs aussi dans la cour de récréation. Une fois, un garçon qui avait soulevé ma jupe, je me souviens, j'étais très petite aussi. Je pense que j'étais en maternelle. J'avais plus jamais voulu porter de jupe. Ça avait été vraiment un affront insupportable. Et puis je me souviens que j'aimais beaucoup jouer à la bagarre avec les garçons. Jusqu'au jour où j'ai compris et où une fois de plus, l'objectif c'était d'aller attaquer les filles et où je m'étais dit non, là en fait. C'est peut-être le moment où j'ai vécu ma première expérience de sororité. Non, en fait, je ne veux pas être dans ce camp-là. Je suis dans le camp des filles. Et je pense que c'est à partir de ce jour-là où finalement, je me suis aperçue que j'étais une fille et que je voulais bien, hein, que je revendiquais le fait d'être dans le camp des filles et d'aller me battre avec elles, finalement. Voilà, c'est des petits souvenirs que j'ai, mais qui montrent qu'en fait, très tôt, je me suis interrogée sur ces questions de genre.
Bah, c'est assez fort, oui. Et à quel moment est-ce que tu as pris conscience que c'était pas censé être limitant, justement, et que ça devait pas être une barrière dans ta vie pour réaliser tes rêves ?
Moi, je pense que, justement, pour moi, ça ne pouvait pas être une barrière. C'est-à-dire que j'ai jamais raisonné en tant que fille. C'est quelque chose qu'on m'a renvoyé, mais j'ai toujours considéré que... Ouais, je pense que j'ai été élevée aussi, hein. Dans une certaine indifférenciation des sexes. Donc, j'ai pris conscience, en fait, du regard que l'on pouvait porter sur les sexes, mais je ne l'ai jamais vécu, moi, comme où j'ai fait en sorte que ce ne soit pas, un obstacle, en tout cas, je crois.
Et plus vieille, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont indignée et qui t'ont menée à prendre conscience que c'était des combats plus globaux et qui ne se jouaient pas à l'échelle individuelle?
Oui, il y a de nombreuses injustices qui m'ont indignée, je pense. Hein. À l'adolescence, je me souviens de la découverte de la Shoah, du choc que ça a été de découvrir la Shoah. Je me souviens aussi, à l'adolescence, de la découverte de la pauvreté, de la très grande misère, mais aussi du sous-développement, les difficultés des pays du Sud, des difficultés économiques des pays du Sud, de la grande pauvreté. Et je me suis plutôt engagée d'ailleurs d'abord vers ces métiers-là, puisque quand j'avais, à la fin de mes études, j'ai décidé de travailler dans l'humanitaire. Donc ça montre qu'il y avait aussi d'autres... d'autres injustices qui m'ont marquée et contre lesquelles j'ai eu envie de lutter assez jeune.
Et tu faisais quoi dans l'humanitaire, si tu peux en parler ?
J'ai travaillé pour une petite ONG, je travaillais en Thaïlande et au Laos, dans l'éducation. L'objectif, c'était d'aider les enfants, notamment les enfants issus d'ethnies qui étaient vraiment mis à l'écart, d'accéder à l'éducation et d'aller à l'école. Donc c'était des programmes d'éducation qui m'ont permis de travailler pendant quelques années sur le terrain. Et puis ensuite j'ai continué à travailler dans le milieu des ONG pendant 10 ans pour différentes associations, jusqu'à travailler pour la coordination nationale des ONG françaises, Coordination Sud, où là j'étais vraiment dans l'appui au milieu associatif, en fait aux plus petites associations. Je travaille au sein du centre de ressources de Coordination Sud, dans l'appui au secteur associatif, dans le champ du développement ou de l'humanitaire.
Donc en fait, ton indignation globale, t'en avais fait ton métier dès le départ.
Ouais, alors c'est marrant parce que j'ai fait des études à l'université, puis à la fin de mes études, j'ai eu envie de découvrir le milieu de l'entreprise, donc j'ai fait un stage dans une grande entreprise pendant 6 mois en marketing. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui finalement me fasse confiance. J'avais jamais fait d'études de marketing et qui m'a proposé d'être son assistante, donc chef de projet pendant 6 mois. Et je me suis aperçue assez vite qu'en fait c'était pas du tout que j'étais pas à ma place. Je cherchais le sens dans ce que dans mon travail, dans ce que je faisais. Et c'est comme ça que j'ai finalement décidé de travailler dans un secteur qui pour moi avait du sens et d'aller au bout de mes convictions. Mais il a fallu que je passe par cette expérience en entreprise pour m'apercevoir que j'avais besoin de travailler dans un milieu porteur de sens pour moi.
Enfin, je pense que c'est un truc qui se retrouve beaucoup aujourd'hui, y compris chez les jeunes qui entrent dans la vie active. Enfin, moi, le nombre de personnes autour de moi que j'ai qui sont dans ce cas de figure-là, je sais pas, enfin, si Clémence, ça Clémence Bodoc, du coup, ça fait écho avec ton expérience aussi, et si tu voulais rebondir là-dessus.
Moi, je me pose surtout une question, c'est que je ne sais pas comment on fait pour, quand on est sensible aux injustices, réussir à travailler et faire carrière dans le milieu des ONG, c'est-à-dire sur le front. Franchement, comment tu fais ? C'est-à-dire que pour moi, pour réussir dans ce cadre-là, sur le plan de l'équilibre personnel, j'entends, soit tu as trouvé un truc pour ne plus ressentir l'indignation, mais alors le risque, c'est de devenir indifférente au monde. Ou alors, t'es maître zen niveau 25. Comment on fait ?
D'abord, la première chose, c'est que qui est compliqué quand on décide d'aller travailler dans le secteur associatif et le secteur humanitaire. Enfin, en tout cas, c'était il y a 20 ans. Hein, je pense que ça n'a pas beaucoup changé. C'est qu'on commence par te dire, c'est bien, mais qu'est-ce que tu sais faire ? Moi, j'étais ni médecin, ni ingénieur dans l'agriculture, j'étais pas agronome, j'avais fait des études d'économie et de finance. Donc en fait, on m'a renvoyé finalement à mon incompétence. J'ai finalement trouvé cette petite association qui m'a fait confiance pour faire de la gestion de projet. Et je pense qu'effectivement, j'avais les compétences pour ça. Mais c'est souvent la première difficulté. C'est ce qu'on renvoie très souvent aux jeunes qui ont envie de se lancer dans ce secteur associatif. C'est qu'on leur dit, mais vous avez, c'est bien, vous avez des convictions, vous avez de l'énergie, vous avez certainement, vous êtes animé par... Par beaucoup de choses, mais ça suffit pas. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête. C'est pas parce qu'on a envie de faire qu'on sait faire. Et donc il a fallu d'abord dépasser ce premier obstacle-là. Et d'ailleurs, moi j'étais allée voir les grosses ONG qui m'avaient dit, commence par acquérir de l'expérience et puis après tu reviendras nous voir. Donc c'est un peu le truc qui se mord la queue. Ça c'est la première difficulté. Après, pour moi, c'est plus un moteur. C'est-à-dire que quand je suis face à une injustice, j'ai besoin d'agir, j'ai besoin d'être dans l'action. Donc, non, au contraire, le fait d'avoir le sentiment d'apporter ma contribution Alors, il faut rester... C'est vrai qu'il faut rester modeste. On ne change pas le monde du jour au lendemain. On est souvent confronté à des situations très, très difficiles et face auxquelles on se sent impuissante, d'ailleurs, hein, parce que... face à des situations d'extrême pauvreté. Je me souviens d'un enfant, par exemple, qui était donc parrainé dans le cadre d'un des programmes que je gérais et qui était le premier enfant de son village à être allé à l'école, à avoir suivi des études et qui avait la possibilité là, parce qu'il était extrêmement doué, de faire des études supérieures. Et j'avais eu un échange avec ses parents qui m'avaient dit non, d'abord avec lui, puis avec ses parents, qui m'avaient dit non, il va arrêter. Il va arrêter d'aller à l'école, il va pas faire d'études supérieures parce qu'on a besoin de lui. Et on a besoin de lui maintenant pour travailler, pour prendre le relais. On est vieux, on a besoin qu'il nous aide et qu'il aide ses frères et sœurs. Et ça avait été, je me souviens, un sentiment d'échec énorme et de frustration énorme. Donc il faut avoir aussi cette capacité de distance et de prise de recul pour se dire, bon, effectivement, on ne peut pas tout changer et apporter des solutions à toutes les situations. Ça peut être vraiment douloureux, mais ça s'apprend.
Tu es aujourd'hui directrice du centre Hubertine Auclair qui œuvre pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Quand et surtout pourquoi as-tu commencé à t'intéresser puis à t'engager sur la question de l'égalité ?
Alors, comme je le disais, je pense que c'est quand même des questions auxquelles j'ai été confrontée depuis que j'étais toute jeune. Mais il se trouve que quand je travaillais pour Coordination Sud, j'ai eu la possibilité de prendre en charge la commission genre et développement. C'est-à-dire, en gros, l'instance de réflexion des ONG françaises pour produire à la fois de l'expertise et des préconisations pour améliorer l'égalité femmes-hommes dans les programmes de développement. Et c'est ce qui m'a amenée à m'intéresser peut-être sur un point de vue plus intellectuel et plus construit à ces sujets. Et puis ça m'a passionnée, bien sûr. Hein, quand on commence à chausser les lunettes de genre, on ne regarde plus la société de la même manière. Donc voilà, j'avais envie de pouvoir me consacrer à plein temps à ces sujets. Et j'avais, dans le cadre de ces fonctions-là, j'avais seulement... une petite partie de mon temps qui était consacrée à ces sujets. J'avais plein d'autres sujets sur lesquels je devais travailler, donc c'est comme ça que j'ai décidé finalement d'aller travailler dans ce champ-là, dans un autre secteur, le secteur des associations féministes en France.
Directement après Coordination Sud, tu es passée au centre Hubertine Auclair, du coup.
Ouais, c'est ça. À l'époque, le centre Hubertine Auclert venait d'être créé et j'ai été recrutée pour mettre en place tout le volet appui au montage de projets, appui au secteur associatif. C'était des choses que je savais faire parce que j'avais été en charge de ce genre de programme, mais dans le secteur de la solidarité internationale. Et ça a été passionnant d'arriver tout au début justement du centre Hubertine Auclert, à une époque où on était encore en train de définir finalement les actions. On avait des missions, des objectifs, mais c'était tout au début de la création du centre.
En commençant à travailler dans ce milieu sur l'égalité entre femmes et hommes, est-ce que tu avais conscience dès ce moment-là que c'était à ce point clivant, que ça n'emportait pas l'adhésion de toute la population?
Paradoxalement, c'était beaucoup plus compliqué de travailler sur ces sujets dans le secteur, par exemple, des ONG, où j'étais la féministe de service venait toujours perturber l'ordre bien établi avec des questions, en remettant en cause justement l'ordre établi. Et c'est vrai que c'est pas facile d'être toujours la personne qui rappelle que attention au sexisme, attention, vous avez oublié, encore une fois, vous avez oublié les femmes dans votre réflexion, vous les avez... Donc, quand je suis arrivée au centre Hubertine Auclert, j'ai trouvé, et c'est quelque chose que j'ai partagé d'ailleurs tout de suite avec mes collègues, que c'était extrêmement reposant de travailler avec des collègues qui étaient toutes déjà convaincues et toutes féministes. C'était, c'était ultra reposant et agréable. De plus avoir à tout le temps se justifier. Et c'est vraiment propre au peut-être pas qu'au féminisme d'ailleurs, hein, mais moi j'avais jamais vécu cette situation de toujours devoir affirmer la légitimité du combat qu'on était pourtant pour lequel on était en fonction. Enfin, moi j'étais en charge de la commission genre, donc j'étais on m'avait justement demandé de porter ce regard sur un certain nombre de sujets et de l'analyser, les contenus, sous le prisme du genre. Et pourtant, c'était toujours quelque chose qui... J'avais le sentiment que c'était toujours quelque chose qui dérangeait. Donc d'aller travailler dans le secteur féministe, finalement, j'ai trouvé ça au départ extrêmement reposant.
Et est-ce que tu n'as pas rencontré une opposition différente à partir du moment où tu es entrée au centre Hubertine Auclert, qui ne venait pas forcément de l'organisation à laquelle tu appartenais, du coup, mais peut-être... des pouvoirs publics, de la société dans son ensemble?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on rencontre régulièrement, mais aussi bien dans le milieu d'ailleurs, dans le milieu personnel que dans le milieu professionnel, des résistances permanentes. Quand je travaillais pour Coordination Sud, ces résistances, elles pouvaient s'exprimer dans l'équipe, elles pouvaient s'exprimer chez des partenaires. Et puis on trouve aussi toujours des alliés, aussi bien d'ailleurs dans l'équipe que chez des partenaires institutionnels. Et moi, c'est l'expérience que j'ai vécue quand je travaillais à Coordination Sud sur ces sujets, c'est qu'en gros, dans les sujets de plaidoyer qui étaient défendus par Coordination Sud, les questions de genre n'étaient à l'époque, et je pense que ça a pas mal évolué depuis, mais à l'époque n'étaient vraiment pas une priorité. Mais chez les partenaires institutionnels, y compris au plus haut niveau d'ailleurs, hein, au niveau, je me souviens, du cabinet du ministre, j'ai pu trouver des alliés sur qui s'appuyer justement pour débloquer des fonds en faire une priorité politique sur lesquelles j'ai pu m'appuyer.
C'était dans quel contexte environ? Parce que là, on parle d'égalité homme-femme, de féminisme, mais la situation... Enfin, le sujet a beaucoup évolué en très peu de temps. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un avant-après MeToo, au sens où il y a eu un avant-après Marlène Schiappa, dans le sens où il y a des mots qui avant étaient des gros mots, comme féminisme, pour beaucoup de gens, ça voulait dire féministe radical extrémiste, et pas personne qui se bat pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans la société. L'époque dont tu nous parles, ça remonte à quand environ? C'est quel type d'année?
Alors moi, l'époque dont je vous parle, c'est les années 2004-2010. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'à l'époque, les questions de genre dans les politiques de développement international étaient vraiment courantes. On parlait de gender issue, de gender policy. Dans les agences internationales avaient intégré depuis déjà plusieurs années, une dizaine d'années, ces questions. Donc le mot genre, par exemple, était couramment utilisé dans le secteur du développement. C'était totalement intégré, en tout cas sur le plan théorique. Et quand j'ai commencé à travailler pour le Centre Bertine Auclair en 2010, il y a eu, quelques années après, vous vous souvenez, les abécédaires de l'égalité qui ont été, qui ont commencé à être mis en place donc dans les écoles, et vous vous souvenez de l'énorme backlash qu'a suscité cette politique d'éducation à l'égalité des filles et des garçons, et le mot genre est devenu complètement tabou en France, ça est devenu quasiment impossible de l'utiliser. En tout cas, nous, c'est vraiment des grosses difficultés auxquelles on a été confrontés au Centre Bertine Auclair. Donc suivant le contexte dans lequel on travaille et l'époque, c'est des sujets qui peuvent devenir plus tabous. Et j'ai l'impression, moi en tout cas, depuis 2 ans, que ça devient beaucoup plus facile d'utiliser le mot genre dans les politiques publiques en France.
Alors, les ABCD de l'égalité, pour les gens qui ne s'en souviendraient pas, c'était un programme d'éducation à l'égalité entre les filles et les garçons qui était développé entre le ministère des droits des femmes et celui de l'éducation nationale, à destination, donc, c'est de la formation pour les instituteurs, institutrices, pour aider à déraciner les stéréotypes de genre auprès des enfants. J'ai bon ? On est d'accord sur mon rappel ?
C'est ça, c'est okay. Tout à fait ça.
Comment t'expliques que, donc ça, je parle de 2013, hein, Najat Vallaud-Belkacem qui présente les ABCD. Comment t'expliques que partout dans le monde, on puisse parler de gender studies et que le sujet soit dépassionné, on va dire, à le fait qu'en France, une telle hystérie soit levée autour de ce mot, et au point de faire reculer les politiques publiques sur ce sujet, et comment t'expliques aussi le fait qu'aujourd'hui, tu puisses dire ça... Ça va mieux, on arrive à réutiliser ce mot. Moi, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue, ton commentaire en fait sur cette, sur ce qui s'est passé en France ces 6-7 dernières années.
Je pense que les gender studies étaient beaucoup moins développés en France dans les années 2000, et c'est un mot qui était finalement très peu utilisé en dehors de quelques milieux. Universitaires français. Et quand les ABCD de l'égalité ont été mis en place, il y a eu une mobilisation extrêmement forte des mouvements traditionnalistes de tous bords. C'était peu de temps avant aussi toute la mobilisation contre le mariage pour tous. Donc toutes ces anti-féministes se sont alliés et mobilisés, et une de leurs stratégies, ça a été d'attaquer justement ce qu'ils ont appelé la théorie du genre. Mais derrière, c'était vraiment l'objectif, c'était vraiment d'attaquer tout le mouvement de pensée féministe. Donc ça a été une stratégie qui malheureusement a fonctionné, parce qu'il y a eu toute une politique de désinformation autour de ce que c'était que les ABCD de l'égalité, hein, en faisant croire qu'il s'agissait d'éduquer à la sexualité les plus jeunes enfants en leur faisant manipuler des sexes en peluche. Enfin, on a vu des montages ahurissants. L'objectif, c'était de faire peur autour de ce programme-là pour faire reculer les idées progressistes féministes. C'était vraiment ça. Et ils ont marqué quand même un certain nombre de points. Alors pourquoi est-ce que ça a évolué ? Je pense qu'il y a eu, pendant toute la période de débat autour du mariage pour tous, le sujet était complètement miné. La société était vraiment clivée. C'était devenu un sujet extrêmement clivant. Et donc très compliqué... à travailler pour nous, par exemple, parce que clivant politiquement. Et puis, le temps est passé. Je pense que le mariage pour tous s'est imposé. Après avoir été voté petit à petit, il s'est imposé. La population française, dans sa grande majorité, aujourd'hui, le soutient. Et finalement, tout ce débat autour du genre s'est apaisé. Bon, nous, c'est vraiment le sentiment qu'on a eu. Et puis, il y a un certain nombre de personnalités, notamment de femmes politiques, qui se sont emparées de ce mot-là et qui l'ont assumé. Et à partir du moment où des femmes politiques de tous bords utilisent ce mot, se l'approprient, le revendiquent, le terrain n'est plus miné politiquement, et derrière, on peut expliquer de manière très pédagogique à quoi servent les études de genre, en quoi ce concept nous aide à comprendre la société, la manière dont les rôles sociaux sont construits, etc.
Oui, parce qu'effectivement, ce mot-là avait été complètement galvaudé, comme tu l'expliques très bien. Malgré tout, aujourd'hui, je pense que... Enfin, je ne sais pas si tu les perçois comme moi, mais moi, j'ai eu sous la main des documents qui s'appellent notamment « Restaurer l'ordre naturel » ou ce genre de choses, qui sont issus de groupements traditionnalistes, effectivement, qui veulent encore nuire à toutes les politiques de progrès sur le front du genre et de l'égalité, justement, qui passent par des luttes comme a été celle contre le mariage pour tous, aujourd'hui la PMA, même s'ils ils sont beaucoup plus calmes, et surtout qui s'internationalisent, puisqu'on est sur des mouvements. En fait, c'est un groupe qui s'appelle Agenda Europe, etc. Donc, comment, je ne sais pas si au niveau du centre Hubertine Auclair, vous faites face directement à ce genre d'opposition. Si oui, comment ?
On est assez peu confronté directement aux masculinistes et aux mouvements traditionnalistes, pas de manière frontale en tout cas. On a eu des cyberattaques qui nous amènent à penser quand même qu'on peut être une cible, mais sans avoir de preuves vraiment matérielles là-dessus, puisque l'enquête n'a rien donné. On a organisé en décembre 2018 justement un colloque sur les freins à l'avancée de l'égalité femmes-hommes, et avec toute une réflexion autour de ces mouvements et un état des lieux autour de ces mouvements masculinistes et traditionnalistes qui restent extrêmement forts, puissants et qui sont très très organisés, notamment au niveau européen. Je pense qu'on a gagné une bataille, mais on n'a absolument pas gagné la guerre. Il faut rester très très vigilante là-dessus.
Et alors ces freins justement quels sont-ils ?
Alors, ils sont nombreux. Je pense que le droit à l'avortement est constamment attaqué par les mouvements, notamment les mouvements traditionalistes qui font alliance. Hein. Et on voit qu'il y a de jeunes, d'ailleurs, parmi les générations les plus jeunes, il y a malheureusement une reprise de flambeau avec une intégration des codes marketing, j'ai envie de dire, extrêmement efficace, notamment sur les réseaux sociaux. Il faut voir comment ils ont repris quand même la figure de Simone Veil pour dénoncer la loi sur l'avortement. Enfin, c'est effrayant. Et puis, il y a aussi tous les mouvements de pères, qu'on a appelé les pères perchés, qui se battent aussi contre les droits des femmes et les politiques de protection des femmes victimes de violences conjugales. Donc là aussi, il y a des mouvements qui sont extrêmement, je pense, importants, organisés, contre lesquels il faut aussi nous aussi nous organiser. La difficulté, c'est de ne pas être uniquement dans la riposte, mais d'être dans l'anticipation de leurs attaques. Alors après, ça, c'est pas le rôle du centre Hubertine Auclair. Nous, on est une association qui se veut plus un centre de ressources et un centre d'appui au secteur associatif. Donc nous, on ne réalise ni plaidoyer, ni campagne. C'est important de le préciser.
On va y revenir dans un instant. Juste avant, j'avais une dernière question un peu sur ce sujet. Tu as dit tout à l'heure que l'égalité faisait peur et on vient de parler des masculinistes. Est-ce que tu penses que nous, collectivement, en tant que féministes, on est passé à côté de quelque chose si on se retrouve à avoir en opposition au combat pour l'égalité des gens qui en ont peur ? Parce que c'est pas justement une guerre de tranchées, normalement. Enfin, on le sait, toutes les trois autour de cette conversation, que déconstruire les stéréotypes de genre, ça profite à tout le monde parce qu'ils pèsent aussi sur les hommes, ces stéréotypes. Ils limitent aussi les perspectives des petits garçons, ces stéréotypes. Donc, est-ce que tu penses qu'on a raté quelque chose pour qu'on soit face à des gens qui aient peur de l'égalité au point d'entraver la mission d'associations, d'organismes, d'institutions qui œuvrent en faveur de l'égalité?
Il faut quand même avoir conscience que cette peur des féministes, elle existe depuis toujours. Depuis que le féminisme existe, les féministes sont caricaturées, leurs propos sont dénaturés, donc c'est pas récent. Donc c'est important de se dire que c'est pas nous qui avons raté quelque chose. Je pense que la résistance au combat féministe, elle est presque intrinsèque à ce combat. Malheureusement, le jour où on arrivera à faire prendre conscience aux hommes qu'ils ont aussi tout à gagner, et à faire prendre conscience à la société en général et aux femmes aussi, parce qu'on n'a pas que des alliés, hein, que c'est avant tout un combat humaniste, un combat progressiste, On aura gagné. Mais on vient de sortir, nous, une brochure qui s'appelle « Je ne suis pas féministe, mais » et qui vise justement à déconstruire un certain nombre d'idées reçues sur le féminisme. Et c'est des idées qui sont, malheureusement, qui ont, pour certaines, ont plusieurs siècles. L'idée que, justement, on n'est pas... non, les féministes ne détestent pas les hommes, même si... individuellement, ils peuvent nous agacer. C'est pas voilà, une, ça c'est une des idées reçues ou l'idée selon laquelle les féministes seraient aujourd'hui un combat d'arrière-garde, que les droits des femmes seraient acquis et que finalement ce serait pas un combat prioritaire, qu'on aurait d'autres combats plus importants. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'idées reçues qui puisent leurs racines dans des siècles d'antiféminisme. Et c'est contre ça dont on doit se battre encore aujourd'hui.
Alors parlons justement du Centre Bertine Auclair maintenant. Est-ce que tu peux nous présenter qu'est-ce que ce centre, c'est quoi sa nature juridique, c'est quoi son rôle, quelles sont ses missions pour les gens qui nous écoutent?
Alors le Centre Bertine Auclair, c'est, d'un point de vue juridique, c'est une association de loi 1901. Donc on réunit, nos membres ce ne sont pas des personnes physiques, ce sont des associations, des collectivités locales, franciliennes et des syndicats et des élus de la région Île-de-France. On est ce qui s'appelle un organisme associé du Conseil régional d'Île-de-France. Donc on a cette proximité très forte avec le Conseil régional d'Île-de-France qui se retrouve notamment dans notre gouvernance, hein, puisque notre présidente, c'est une conseillère régionale. Aujourd'hui d'ailleurs, elle est déléguée spéciale à l'égalité femmes-hommes auprès de la présidente de la région Île-de-France. On a donc des élus de tous les groupes politiques présents au Conseil régional qui siègent dans notre conseil d'administration. Et puis on a aujourd'hui près de 60 collectivités locales franciliennes et plus de 130 associations féministes franciliennes. Donc on est une association proche de la région qui a pour mission de... on est à la fois un centre de ressources et d'expertise sur l'égalité femmes-hommes. Nous, notre mission, c'est d'accompagner toutes les initiatives du territoire qui vise à faire avancer l'égalité femmes-hommes ou à lutter contre les violences faites aux femmes, à travers la mise à disposition de ressources, à travers des conseils, à travers de la formation, et puis également en produisant une expertise nouvelle sur des sujets qui restent aujourd'hui à éclairer et qu'on a identifiés.
On va revenir sur les missions, mais avant, la question à $1 million pour tous les gens qui n'ont pas encore cherché sur Wikipédia, qui était Hubertine Auclair et pourquoi le centre porte-t-il son nom ?
Alors, on porte son nom pour lui rendre hommage, d'abord, parce que c'est une grande figure féministe française. Hubertine Auclair, elle est née en 1848, pardon, et elle a vécu jusqu'en 1914. Et elle s'est battue toute sa vie pour les droits politiques des femmes, à une époque où les féministes se battaient plutôt pour les droits civiques, pour le droit à travailler, le droit à hériter, le droit à divorcer, etc. Elle disait, tant qu'on ne sera pas dans les assemblées qui font la loi, ces lois ne nous seront pas favorables. Et elle passait pour ultra radicale, hein, même dans les milieux féministes, beaucoup considéraient qu'elle allait trop loin dans ses revendications. Donc elle est considérée comme une des premières femmes françaises à s'être battue, par exemple, pour le droit de vote des femmes. Et malheureusement, elle est morte avant que les femmes obtiennent ce droit. Elle était précurseuse dans plein de domaines, hein. Elle a travaillé aussi sur la féminisation des noms de métiers. Elle s'est battue aussi contre le mariage forcé, notamment en Algérie, puisqu'elle a vécu là-bas quelques années. Voilà, c'est vraiment une figure inspirante.
Au sein du centre Hubertine Auclair, il y a l'Observatoire régional des violences faites aux femmes. Est-ce que tu pourrais détailler aussi son rôle ?
Alors, l'Observatoire régional des violences faites aux femmes, il a été créé en 2013 avec pour mission, d'une part, de produire une expertise nouvelle sur l'ensemble des violences subies par les femmes en Île-de-France, donc à travers des études, hein, et des enquêtes. Il a également pour mission de mettre en relation l'ensemble des acteurs qui travaillent dans la prévention, la protection et l'accompagnement des femmes victimes de violences. Et puis enfin, sa troisième mission, c'est de mener des campagnes en direction du grand public pour la prévention des violences faites aux femmes.
Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de rapports de ces travaux d'analyse qui peuvent être produits par le Centre Hubertine Auclair ? Comment ces analyses sont ensuite exploitées ? Par qui elles sont exploitées, comment ça se passe concrètement, en fait, comment est-ce que ce que vous produisez comme mission d'information, d'analyse, peut servir ensuite à de l'action concrète sur le terrain ?
une des premières études qu'on a menées portait sur le cybersexisme, à une époque où ce mot n'existait pas vraiment encore, hein, en 2013. On a lancé en 2014 cette étude qui portait sur une dizaine de collèges et lycées franciliens. Et l'objectif, c'était d'analyser ces phénomènes de cybersexisme, de cyberviolence à caractère sexiste et sexuel, dont tout le monde avait conscience déjà à l'époque, mais sans qu'on puisse bien définir de quoi il s'agissait, dans quel contexte ces violences survenaient, quelles étaient les conséquences pour les victimes, etc. Donc on a mené une étude qualitative auprès des adolescentes et des adolescents qui a amené à mieux connaître, à mieux définir l'ensemble des formes de cybersexisme, c'est-à-dire aussi bien l'envoi par exemple de textos non sollicités, donc des textos à caractère sexuel, ce qu'on appelle les sextos, ce qu'on appelle le revenge porn, c'est également toutes les insultes sexistes et sexuelles, le harcèlement sexuel. Voilà, donc on a pu mettre des mots sur des phénomènes qui étaient pour certains totalement nouveaux, par exemple le revenge porn. Quand les outils numériques n'existaient pas, c'était cette forme de violence, elle n'existait pas, cette nouvelle forme de violence envers les femmes qui est maintenant malheureusement est extrêmement répandue. Et puis ça nous a permis derrière, parce que effectivement produire des études c'est bien, mais si elles servent à caler les armoires, c'est un peu dommage. Alors nous on essaie toujours de décliner nos études, d'une part en formation. Donc on a formé les associations qui interviennent au milieu scolaire sur la prévention du sexisme ou des violences sexuelles à mieux connaître ces nouvelles formes pour pouvoir travailler avec les adolescents à la prévention de ces violences-là avec les adolescentes et les adolescents. On a monté un projet pilote de prévention du cybersexisme dans les établissements scolaires. Et puis, on a lancé une campagne, une grosse campagne de prévention du cybersexisme qui a permis de mettre ce sujet aussi à l'agenda dans le débat public, mais aussi à l'agenda politique. Je pense qu'on a contribué, on n'est pas les seuls, hein, mais on a contribué à travers cette étude aussi à mettre un coup d'éclairage, par exemple, sur le revenge porn. Et après, on a été auditionnés par les commissions de l'Assemblée nationale. Je pense qu'on a contribué à faire émerger ce sujet et à faire évoluer la législation pour mieux protéger les victimes de ces violences-là. On a fait peut-être une autre étude aussi sur les cyberviolences conjugales qui est sortie en 2018 et qui a permis de quantifier et de qualifier parmi les violences conjugales celles qui s'exercent via les outils numériques et qui étaient encore très peu repérées par les professionnels qui accompagnent les femmes victimes de violences et par les femmes victimes de violences elles-mêmes. Et là aussi, derrière, nous, notre objectif, c'est de donner un éclairage sur des phénomènes et derrière de former les professionnels et de proposer des outils concrets pour permettre aux femmes de renforcer leur sécurité numérique en paramétrant leur outil numérique de manière plus sécurisée.
À l'issue de cette étude, vous aviez fait pas mal de recommandations, il me semble, à destination des associations. Je me souviens plus précisément s'il y avait aussi des recommandations pour les pouvoirs publics, pour des politiques publiques à mettre en place pour agir contre cette forme de cyberviolence faite aux femmes.
Non, en fait, ce que cette étude a permis d'éclairer notamment, c'est l'absence d'outils et de dispositifs pour, par exemple, interdire les logiciels espions. Vous savez, les logiciels qui permettent de géolocaliser, mais aussi d'avoir accès au contenu des téléphones ou des ordinateurs. C'est des logiciels qui sont malheureusement extrêmement accessibles, qui sont vendus en vente libre sur Internet, très souvent déguisés sous des logiciels de contrôle parental. Mais parfois, les visuels sont très explicites, puisqu'on voit des couples. Et ces logiciels-là, aujourd'hui, non seulement ils sont vendus en vente libre, mais c'est extrêmement difficile de les repérer et de les désinstaller. Donc là, c'est plus des préconisations en direction des opérateurs de téléphone et des fabricants de téléphone pour pouvoir se protéger de ces logiciels, les repérer, mais aussi les désinstaller plus facilement.
Donc tout ça, c'est très concret. Le Centre Hubertine Auclert a évidemment d'autres missions qu'on peut aborder un petit peu, notamment la partie soutien aux associations. Comment ça se concrétise ?
Alors, moi, quand j'ai commencé à travailler pour le Centre Hubertine Auclert, j'ai réalisé que le secteur associatif féministe en France était un secteur extrêmement vivant, qui devenait d'ailleurs très dynamique. Hein, dans les années 2010, c'est là où on a vu apparaître des nouvelles associations militantes de jeunes femmes extrêmement engagées, avec utilisant les codes, les nouveaux codes des réseaux sociaux pour mobiliser, pour faire passer leur message. Mais paradoxalement, c'est un secteur qui reste très faible en termes de financement, de moyens, de ressources humaines, mais également d'outils de communication. J'ai eu l'occasion, avec une collègue, de réaliser une enquête auprès de ce secteur associatif pour justement mesurer quelles étaient ses forces et ses faiblesses, et qui nous a amené à faire paraître un livre blanc, hein, des associations féministes en 2010. Et qui montre que, par rapport, par exemple, moi j'avais comme référence le secteur des ONG en France, voilà, c'est un secteur qui a besoin d'être davantage soutenu pour mieux se développer et se professionnaliser. Donc un des rôles du Centre Hubertine Auclert, c'est d'accompagner la professionnalisation de ce secteur à travers des formations, de l'appui des conseils, de l'appui au montage de projets, de l'appui pour l'accès au financement. Et un de nos objectifs, c'est notamment de renforcer toutes les fonctions support dans ces associations, où l'on trouve des militantes qui sont vraiment des expertes sur toutes les thématiques des inégalités femmes-hommes et des violences faites aux femmes. Mais c'est des associations dans lesquelles on a peu de professionnels de la gestion, de la communication, de la recherche de financement. C'est extrêmement compliqué, par exemple, pour ces associations d'accéder à des financements européens.
En ce moment, vous avez une action en direction des 14-18 ans, en partenariat avec ONU Femmes France. C'est le concours Ton podcast pour l'égalité. C'est quoi le but, l'objectif de mener une telle action pour le Centre Hubertine Auclert ?
Alors, on avait depuis en partenariat avec ONU Femmes France et d'ailleurs l'Université Paris Diderot, on avait depuis plusieurs années organisé un concours de vidéos courtes, très courtes, qui s'appelait Ton cours pour l'égalité, et qui, l'objectif, c'est d'inciter les jeunes, c'était les jeunes d'ailleurs un peu plus âgés, 18-25 ans, à produire des contenus pour parler des inégalités femmes-hommes aujourd'hui et des discriminations que subissent les femmes. Et on a eu envie de leur proposer un nouveau type de médias, donc les podcasts. C'est un peu un pari, hein, parce que les jeunes écoutent, les jeunes de 14 à 18 ans écoutent moins les podcasts que leurs aînés. Mais il nous a semblé que c'était intéressant aussi de les amener à développer ce type de support, à s'interroger, à parler de ce sujet des inégalités femmes-hommes, dont ils sont et elles sont surtout, moi j'ai le sentiment, assez conscientes en fait, hein. J'ai le sentiment que la génération d'aujourd'hui, des 14-18 ans, a bien mieux conscience des inégalités femmes-hommes et du sexisme notamment, que l'était ma génération à moi. Et quand on propose aux jeunes d'en parler, je trouve que c'est toujours, c'est souvent extrêmement intéressant et créatif. Et l'expérience qu'on a pu avoir avec Ton cours pour l'égalité, les vidéos qu'elles nous ont proposées, c'est que c'est aussi des supports extrêmement intéressants après pour travailler avec des jeunes du même âge sur ces sujets-là. Donc en fait, on a un double objectif. Le premier objectif, c'est d'inciter les jeunes à prendre la parole et à s'exprimer sur ces sujets-là, parce qu'on pense qu'ils ont des choses à nous dire et qu'on a envie de les écouter. Et le deuxième objectif, c'est à travers ces supports nouveaux de disposer d'outils de sensibilisation qui pourraient être partagés avec des jeunes de leur âge. Il n'y a rien de tel qu'une personne de 16 ans pour parler à une autre personne de 16 ans, surtout sur ces sujets-là.
Je voudrais revenir un petit peu au lien entre les associations et le Centre Hubertine Auclert. Admettons que je sois responsable d'une asso qui se bat sur les questions de lutte contre le sexisme. Est-ce que je peux intégrer le réseau du Centre Hubertine Auclert ? Et si oui, comment je fais ?
Alors, pour adhérer au Centre Hubertine Auclert, il faut d'abord avoir son siège social en Île-de-France. Ça, c'est le premier critère. Il faut que dans les statuts de l'association, donc il faut que il faut être constitué en association loi 1901, ça c'est un deuxième critère, et il faut que dans l'objet social qui figure dans les statuts de l'association, l'égalité femmes-hommes ou la lutte contre les violences faites aux femmes figure comme mission principale ou comme un objectif en tout cas principal. Alors, il suffit ensuite d'en faire la demande, hein. Les demandes sont présentées au conseil d'administration et c'est le conseil d'administration du centre qui valide les adhésions.
Et est-ce qu'il y a des centres similaires au Centre Hubertine Auclert hors d'Île-de-France ou est-ce que c'est un peu une exception ?
Et non, malheureusement, il n'y a que l'Île-de-France qui bénéficie d'un centre comme le nôtre. Il y a des observatoires des violences faites aux femmes, des observatoires départementaux. Un des premiers, c'est celui de Seine-Saint-Denis, qui est bien connu, à Paris, puis aussi dans d'autres départements de France. Et dans certaines régions, on trouve des observatoires départementaux, régionaux des violences faites aux femmes. En revanche, un centre dédié à l'égalité femmes-hommes, un centre de ressources dédié à l'égalité femmes-hommes, au niveau régional, ça n'existe aujourd'hui qu'en Île-de-France. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tout ce qu'on produit est extrêmement mobilisé bien au-delà de l'Île-de-France, puisque toutes nos études, les outils de sensibilisation qu'on produit, notamment en direction des jeunes, sont disponibles en libre accès sur notre site internet et peuvent être commandés au-delà de la région Île-de-France. Et voire même, on sait que nos ressources sont consultées dans le milieu francophone, dans certains pays francophones, au-delà même de la métropole et de la France. Donc je pense qu'il y a vraiment un besoin qui dépasse la région Île-de-France d'outiller et d'accompagner les actrices et les acteurs de l'égalité femmes-hommes.
Je pense que c'était important de préciser qu'on peut se munir de vos ressources même si on ne vit pas à Paris ou en Seine-Saint-Denis ou en Île-de-France en règle générale.
Oui, bien sûr.
Clémence, dans cette interview, on demande souvent aux activistes qui nous répondent leur rapport à la politique. Mais je vais commencer juste avant. Est-ce que tu te sens activiste, toi, dans ton travail ?
Alors moi, je ne me définirais pas comme activiste, mais je considère que notre travail, qui reste le Centre Bertineau-Clair, est une association assez institutionnelle, mais en accompagnant les élus des collectivités locales, par exemple, à la définition de politique locale d'égalité, je considère qu'on travaille dans le champ politique. Et d'ailleurs, quand on travaille sur l'égalité femmes-hommes, on travaille dans le champ politique, puisqu'il s'agit de transformer la société vers une société donc plus égalitaire et plus respectueuse des droits des femmes. Donc on est complètement dans le champ politique, mais peut-être pas de manière activiste. C'est une autre forme de travail, je dirais, sur le plan de travail politique.
Mais est-ce que tu penses que c'est possible de réussir à changer la société par les institutions, par l'investissement dans la politique au sens traditionnel du terme, ou est-ce que ça n'irait pas plus vite, ou ce serait pas plus simple de passer à côté, en fait, de reconstruire des choses nouvelles et je te pose la question parce que c'est un peu un conflit idéologique entre ceux qui sont pour le vieux monde ne changera pas, donc faisons sans lui, et ceux qui disent que, et c'est plutôt mon positionnement, c'est que je pense que le changement passe par les institutions. Mais toi qui es sur le terrain, qui es sur cette ligne de front-là, qu'est-ce que t'en penses ?
Ah bah moi, je ne travaillerais pas au Centre Bertineau-Clair si je n'étais pas convaincue à 200% qu'on peut... que justement, on peut changer les choses de l'intérieur. Mais je l'ai vraiment constaté, depuis 2004, que je travaille sur les politiques publiques d'égalité femmes-hommes, que ce soit dans le secteur du développement ou dans le secteur local en France, ça a énormément évolué. Aujourd'hui, il est légitime pour une collectivité locale, une petite ville, d'intégrer dans ses politiques locales d'éducation, par exemple, sa politique d'urbanisme, de mobilité, d'intégrer cette question de la lutte contre les inégalités femmes-hommes. Ce n'était absolument pas le cas en France il y a 15 ans. C'était un non-sujet. Donc, c'est devenu un sujet légitime en politique. Ça, c'est quand même un énorme progrès. Et moi, je vois au quotidien, dans les actions qui sont menées par des villes, par des centres sociaux, ou par d'autres institutions d'ailleurs, dans le champ social, dans le champ de l'éducation, dans le champ du droit, de l'accès au droit, on voit que c'est des sujets qui progressent. Alors, ça ne progresse pas assez vite, c'est vrai que c'est extrêmement frustrant, et moi je crois vraiment à l'importance et au rôle des acteurs sociaux. C'est-à-dire que c'est aussi parce que les associations aujourd'hui, les associations féministes sont dynamiques, c'est parce qu'elles ont, on les entend, elles ont vraiment une place importante dans le débat public, C'est grâce à elle, hein, d'ailleurs, que MeToo a pu prendre, et c'est en interaction avec ce champ social que ce mouvement s'est développé et que ces sujets sont devenus des sujets vraiment politiques, pleinement politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne dit plus que les violences conjugales, c'est un problème privé. Je veux dire, c'est devenu un sujet sociétal et légitime sur le plan politique. De même que les inégalités femmes-hommes, j'ai le sentiment qu'avec MeToo, la société, globalement, a pris conscience que c'était encore un problème structurel et sociétal sur lequel l'État a un rôle à jouer. Donc ça, ce sont des avancées majeures qui ont été obtenues grâce à l'action des associations militantes qui se battent depuis des siècles pour rendre ce sujet politique, pour en faire un objet politique. Moi, je crois à l'interaction des deux. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait toute l'originalité et l'intérêt, je pense, du Centre Bertin Auclert, c'est de réunir en son sein aussi bien des associations féministes et pour le coup, des associations militantes, hein, et pour certaines assez radicales, de réunir en son sein des associations, des activistes et des élus, de tous bords d'ailleurs. Et ça, moi, vraiment, j'y tiens. Ce sont des élus de tous bords qui participent au Centre Bertin Auclert à travers l'adhésion de leur collectivité locale.
Est-ce que malgré tous ces progrès qui sont importants et qu'il faut garder en tête, ça t'est déjà arrivé d'avoir des moments de découragement, de déception, des envies de tout abandonner ?
Oui. Quand on travaille sur ces sujets, on est souvent en colère, hein, face à l'inaction de certains et de certaines, face aux oppositions extrêmement fortes qu'on rencontre aussi parce qu'elles sont bien présentes dans notre société. Hein. Il faut pas, c'est pas parce qu'on parle beaucoup d'égalité femmes-hommes aujourd'hui, de lutte contre le sexisme, que ces oppositions, elles se sont évanouies. Elles sont toujours bien présentes et on les rencontre régulièrement et souvent. On les rencontre aussi au quotidien. Il faut faire attention quand on travaille dans ce secteur avec des gens qui sont convaincus de ne pas finalement perdre un peu pied avec la réalité. Quand on discute avec nos amis, avec la famille, avec des gens qu'on rencontre dans la rue, j'ai envie de dire, on s'aperçoit qu'en fait, c'est des sujets qui sont pas encore compris par tout le monde ou qui rencontrent encore des résistances fortes dans notre société. Donc oui, moi, ça m'arrive souvent d'être découragée, de me dire que ça n'avance pas assez vite, malgré toute l'énergie qui est dépensée. C'était un peu le but aussi de notre colloque du 3 décembre 2018 sur les freins à l'avancée de l'égalité femmes-hommes. C'est de dire, mais réfléchissons tout ensemble. Nous qui travaillons au quotidien sur ces sujets, on peut être épuisés, en fait, face à l'énergie que demandent ces combats et finalement des résultats tangibles qui sont parfois réels, mais qui restent trop faibles face à l'ambition que l'on porte. Donc je pense que c'est important dans ces moments-là de pouvoir se retrouver, en échanger en fait. On n'est pas seul, on est nombreuses à porter ce combat-là. Donc le collectif, il est essentiel pour ne pas se décourager.
Et qu'est-ce qui te donne de l'espoir à l'heure actuelle, et j'allais dire surtout à l'heure actuelle ?
Moi franchement, c'est la jeune génération qui me donne de l'espoir. Quand je vois comme la façon dont les filles aujourd'hui parlent du sexisme, la façon dont cette capacité qu'elles ont à se révolter, à s'indigner, la façon dont elles en parlent avec les garçons aussi. Hein, moi, ça me donne énormément d'espoir, ça me donne de l'énergie aussi. J'ai envie de leur dire, allez-y, c'est vous qui allez porter ce sujet à l'avenir et on compte beaucoup sur vous.
Ce serait quoi justement le premier conseil que tu donnerais à une jeune femme qui a identifié un problème, qui peut être très précis ou plus large, pour s'engager ?
Moi, mon premier conseil, ce serait de lui dire on peut changer les choses. Je veux dire, il faut surtout pas de fatalité. Il faut, si quelque chose te révolte, il faut te battre contre ça et il faut surtout pas se battre toute seule. Il faut rejoindre trouver des alliés chez les copines ou dans une association et c'est l'union qui fait la force, donc rejoins-nous, j'ai envie de lui dire.
Yes, j'espère vraiment que toutes celles et ceux qui nous écoutent vont trouver la motivation après cet entretien d'éventuellement se renseigner sur les associations qui existent dans leur région. Et s'il n'existe pas d'association dont l'objet, la mission répond à la lutte que vous voulez mener, eh bien créez-la. Merci beaucoup Clémence. Rendez-vous dans les notes du podcast pour trouver tous les liens du concours Ton podcast pour l'égalité, mais aussi vers le centre Hubertine Auclair pour pouvoir s'informer, retrouver toutes les ressources dont on parlait tout à l'heure, tous les outils nécessaires pour pouvoir agir pour faire avancer la lutte pour l'égalité. Merci beaucoup Clémence.
Merci Clémence, merci Esther.
Merci Esther et à la semaine prochaine sur Activiste.
À bientôt.
Vous êtes un ou une activiste dans l'âme ? Écrivez-nous à tutoconquérirlemonde@gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Activiste est une émission d'interview porte-à-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes, sur Instagram @conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly/clembodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine.